savoir, Emmanuel Bastide.
Bonjour et bienvenue à l'École des Savoirs. Nous sommes ensemble pour une heure avec une pause pour le journal. Le mérite contre la justice, voilà le débat qui s'impose de plus en plus à la lumière des politiques de l'éducation. Récompenser les élèves méritants pose la question de la justice sociale en France, mais aussi dans les pays anglo-saxons. Nous en discuterons dans la deuxième partie de l'émission avec nos invités. Marie Durubella, qui publie un essai très remarqué, Le mérite contre la justice, et Régis Mallet, un fin connaisseur de l'éducation en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En première partie d'émission, ce sont bien sûr les infos pratique de l'éducation. Il sera question du guide du jeune enseignant qui paraît ces jours-ci, d'un drôle de jeu pour des étudiants créatifs parrainé par une banque, un projet que nous expliquera Amélie Niard qui pourrait d'ailleurs intéresser pas mal d'étudiants. Et puis Mathilde Landier, notre langue bien pendue au service de la langue française, va bientôt nous quitter, mais elle est dans le studio aujourd'hui pour nous raconter ses nouvelles aventures francophones à venir. Bienvenue chez vous, c'est l'École des Savoirs. Comment démarrer dans le métier lorsqu'on est un jeune enseignant dans le secondaire, collège, lycée? Évidemment, on est souvent attendu au tournant par les élèves et parfois même par ses collègues. Alors pour ne pas céder à la panique, à la déprime, eh bien, il y a un guide qui est fortement recommandé qui s'appelle le guide du jeune enseignant. Bonjour Fabrice Hervieux-Ouane.
Bonjour.
Vous venez de faire paraître donc cette nouvelle version du guide du jeune enseignant qui est complètement revue. Pourquoi un guide alors qu'en fait en France, la plupart des enseignants sortent de l'IUFM, l'Institut Universitaire de Formation des Maîtres, en principe, ils ont eu des cours sur la façon d'enseigner.
C'est tout à fait juste, et en général, c'est plutôt bien fait, mais c'est vrai qu'en même temps, les cours sont parfois un petit peu trop théoriques, et il y a parfois besoin en France, même si c'est pas tellement dans la tendance, de remettre un petit peu les choses sur le concret, sur le terrain, de ce qui se passe concrètement dans la classe, de comment est-ce qu'on réagit à une classe qui est indisciplinée, et voilà. Donc l'idée, c'était vraiment de faire un guide sans tomber dans la recette, hein, parce que c'est pas du tout le propos.
Mais il n'y a pas de jargon en tout cas. Hein.
Voilà, aucun jargon.
Je comprends, hein.
Aucun jargon, pas de science de l'éducation, mais plutôt du concret, mais du concret intelligent, j'allais dire. C'est-à-dire essayer de vraiment donner ce qu'on appelle plutôt des bonnes pratiques pour que les enseignants sachent se sortir de situations difficiles.
Quelles sont les préoccupations qui reviennent le plus souvent dans la bouche des enseignants, des jeunes enseignants?
C'est simple. En fait, il y a deux grandes questions. Face aux élèves, c'est pourvu qu'ils m'écoutent et pourvu qu'ils apprennent. Alors, pourvu qu'ils m'écoutent renvoie directement la question de l'autorité, c'est est-ce que je vais avoir l'autorité suffisante pour me faire respecter en classe, et pourvu qu'ils apprennent, c'est vraiment la question de l'échec scolaire, c'est est-ce que je suis moi enseignant armé pour lutter contre l'échec scolaire, ce qui est une de mes missions. Et bien évidemment, donc l'idée du guide, c'est de consacrer au moins un chapitre entier sur chacune de ces questions et de leur donner le maximum de réponses possibles.
Alors, pas de recettes, mais plein de petits conseils très bien structurés. Par exemple, on a deux pages sur comment motiver ses élèves. Alors là, je suis surprise, j'apprends qu'il ne faut pas abuser de la persuasion, des punitions et des récompenses même.
Oui, parce que vous savez, la récompense, c'est simplement le pendant de la punition. Hein. Si on rentre dans cette logique, on rentre dans une logique qui n'est pas une logique contractuelle. C'est-à-dire que, bon, les pédagogies plus nouvelles nous ont apprises qu'on peut, avec ses élèves, passer des contrats et essayer de faire en sorte qu'ils respectent ces contrats, puisque c'est eux qui se sont engagés sur ces contrats. Donc, effectivement, l'idée du guide, c'est de donner des idées un petit peu en décalé, parfois, mais aussi utiliser tout ce que les pédagogies ont produit.
Partir de ce que savent les élèves, par exemple, dans leur vie, de ce qu'ils voient sur Internet pour ensuite les amener à, évidemment, à des cours plus théoriques.
Voilà, c'est-à-dire partir de leur réalité, partir de qui ils sont, mais pas seulement faire de la pédagogie au rabais, bien sûr, hein, mais essayer de mieux comprendre ses élèves pour être, j'allais dire, dans l'époque.
Hein. Alors, on apprend aussi dans ce guide, quand on est un jeune enseignant, à construire son cours, à préparer ses cours, parce qu'évidemment, à chaque fois, c'est toujours un peu angoissant quand on démarre.
Tout à fait, ça c'est essentiel. En fait, justement, alors là, il y a pas mal de théorie, de méthodologie québécoise qui nous rendent beaucoup service en France, que les Québécois sont très forts pour nous montrer qu'en fait, très concrètement, ce qui se passe dans la classe, quand on prépare bien un cours, c'est-à-dire quand on prépare, y compris en incluant les étapes, les différentes étapes par lesquelles on va passer.
Il n'y a pas de fatalité, quoi.
Il n'y a pas de fatalité.
Si le cours est bien préparé, ça marche.
Absolument. Si on prépare, si c'est bien huilé, non seulement ça rassure les élèves, mais en même temps, l'enseignant est lui-même rassuré, il sait où il va. Alors, ce qui ne l'empêche absolument pas d'improviser, bien évidemment. Mais plus on prépare, plus on peut improviser, justement.
Voir un peu d'humour, ça fait jamais de mal.
Absolument.
Fabrice Hervieux-Ouane, vous vivez, vous travaillez au Sénégal. Ce genre de guide, qui est d'abord conçu pour les enseignants en France, le guide du jeune enseignant, est-ce que c'est adapté pour les enseignants en Afrique ?
Très honnêtement, je dirais qu'il y a 60% qui peut être utile pour les enseignants africains, les enseignants d'Afrique francophone. Maintenant, je désespère pas de pouvoir en faire un vraiment qu'il soit adapté à eux. Donc, c'est un projet. Vous avez tout à fait raison de le souligner. Il y a de toute façon une partie très franco-française, puisque
les programmes,
les programmes, la carrière, etc. Mais les enseignants africains sont malheureusement tellement dépourvus d'outils, y compris, alors là, bien sûr, dans les campagnes, c'est évident, mais y compris en ville. Même en milieu urbain, les enseignants, vous le savez mieux que moi, sont très dépourvus. Donc, outil comme
plusieurs chapitres en plus sur comment se servir des nouvelles technologies, sur quel site aller pour construire un cours ou mettre son cours en ligne. Enfin, là on est dans l'universel.
Absolument. Il y a une profusion de sites internet délibérément choisis avec beaucoup de minutie pour que justement, avec pas grand-chose, on puisse être outillé.
Guide du jeune enseignant. Donc, c'est paru chez Édition Sciences Humaines. Ça peut aussi, bien sûr, se commander par Internet. Merci, Fabrice Hervieux-Wan. Vous publiez aussi, ces jours-ci, un autre ouvrage qui n'a rien à voir avec l'enseignement.
Rien à voir, chez Gallimard Jeunesse, la petite encyclopédie de référence sur l'Afrique avec une présentation des 53 pays du continent. C'est une prétention à présenter l'Afrique dans toutes ses qualités, dans toute sa diversité.
Ouais, et ça peut toujours servir. On n'est jamais aussi savant qu'on le croit. Merci beaucoup.
Merci.
Amélie Niard, conseillère auprès des étudiants, des enseignants. Bonjour Amélie.
Bonjour Emmanuel.
Aujourd'hui, vous proposez plutôt aux étudiants de participer à un jeu d'entreprise, un business game qui est organisé par le groupe bancaire Société Générale. Jolie pub pour cette banque, mais encore.
Plein d'autres choses, Emmanuel. Alors déjà, ce business game s'appelle Citizen Act. Il existe depuis 3 ans et l'an dernier, il y a plus de 600 étudiants de 25 pays qui ont participé.
Ah oui, très international.
En fait, c'est un concours de projet qui est ouvert aux étudiants donc du monde entier sur le thème de la responsabilité sociale et environnementale. L'idée de départ qui a amené la Société Générale à créer ce concours, c'est qu'aujourd'hui, en tant qu'entreprise, la banque a aussi une responsabilité sociale et environnementale.
Ouais, et surtout une image à redresser, on va dire.
Aussi. Et donc, les activités d'une banque ne doivent plus se limiter à la finance. Donc, pour ce concours, les étudiants doivent concevoir un projet pour imaginer la banque de demain. Un projet qui va permettre à la banque de s'engager dans cette nouvelle voie et d'être plus éthique sur le plan social et environnemental.
Alors, cette année, c'est donc la 4e édition de Citizen Act. Avez-vous des exemples concrets de projets qui sont présentés par les étudiants ?
Alors, la première année, un des projets gagnants avait été proposé par des étudiants français. Ils avaient imaginé une carte de crédit co-brandée. Alors, c'est une carte de crédit que le client paie quelques euros plus cher qu'une carte classique. Ouais. Mais ensuite, à chaque achat effectué avec cette carte, la banque reverse 6 centimes d'euros à une association que le client a préalablement choisie. Aujourd'hui, ces cartes...
Donc, c'est une carte de crédit humanitaire, un peu, en quelque
c'est
sorte.
C'est un peu ça. Et donc, aujourd'hui, ces cartes co-brandées existent réellement. Elles sont proposées par la Société Générale. Donc, en gros, le projet a été concrétisé.
Un autre exemple ?
Alors, l'an dernier, il y a une équipe algérienne qui a obtenu le 3e prix avec un projet d'éco-crédit. Le principe, c'est d'attribuer un écolabel aux entreprises qui font des efforts pour respecter l'environnement et qui obtiennent en échange des prêts bancaires à taux préférentiel. Aujourd'hui, ce projet d'écolabel a été lui aussi concrétisé par la filiale algérienne de la Société Générale. Mmh. Et un des étudiants algériens qui avait monté le projet revient tout juste de Corée du Sud, où il est allé présenter son concept parce que les banques coréennes sont très intéressées. Elles veulent aussi le mettre en place. Mmh. Donc autant vous dire que la carrière de ces jeunes Algériens démarre sur des chapeaux de roue.
Et donc là, il s'agit de projets qui ont remporté des prix, que ce soit donc des étudiants algériens, français. Ça, ce sont les meilleurs projets.
Oui, mais même pour les étudiants qui ne gagnent pas ce concours, c'est une occasion de mener un projet de bout en bout, de manière totalement autonome. C'est un très bon moyen de compléter sa formation théorique par une expérience très concrète. Les étudiants s'affrontent par équipe de 3. Ils doivent déposer leur avant-projet sur le site internet avant le 6 décembre prochain.
Oui.
D'ici à février 2010, le jury du Citizen Act va sélectionner les projets les plus intéressants. Et c'est là que les choses sérieuses vont commencer. Chaque équipe sélectionnée va devoir réaliser une véritable étude de marché pour vérifier la viabilité de son projet, avec l'aide d'un parrain qui est en fait un salarié de la Société Générale.
Ah oui, là c'est intéressant.
Et à la fin, les 3 meilleures équipes remporteront un voyage éco-responsable, mais ils pourront choisir d'utiliser l'argent prévu pour payer ce voyage pour l'investir dans leur projet et essayer de le concrétiser.
Et quelles sont les conditions, si on est étudiant, pour participer au Citizen Act ?
Il faut être étudiant en Bac plus 4 ou Bac plus 5, mais peu importe dans quelle matière, c'est ouvert à tous. Alors c'est sûr que la majorité des étudiants qui ont participé au Citizen Act précédent venaient d'écoles de commerce ou de filières économiques.
Oui, pour pouvoir réaliser des études de marché, par exemple, c'est vrai qu'il faut quelques connaissances.
Oui, mais d'après le chef de projet qui gère le concours, donc le Citizen Act, c'est toujours très intéressant de recevoir des propositions d'étudiants qui sont issus de filières pas du tout liées au secteur économique et bancaire, parce que justement, ils apportent une nouvelle vision très différente de celle des économistes, donc n'hésitez pas.
Toutes les informations sur ce business game organisé par la Société Générale, donc le Citizen Act, sont bien sûr sur la page de l'École des Savoirs, rfi.fr. À suivre Mathilde Landier.
Por el noé,
Notre langue bien pendue à nous, à l'École des Savoirs, c'est Mathilde Landier. Bonjour Mathilde.
Bonjour Emmanuel, bonjour à tous.
Et vous faites partie du service langue française de RFI, mais plus pour très longtemps hélas, puisque vous avez d'autres projets. Du coup, vous nous quittez aussi à l'École des Savoirs.
Oui.
J'espère que ça n'est qu'un au revoir. Alors expliquez-nous ce que vous allez faire, parce que vous partez bientôt pour le Togo.
Voilà, au Togo. Et en fait, je vous avais déjà parlé dans l'École des Savoirs du réseau des centres de français langue étrangère d'Afrique, le bien nommé RECFLEA. Eh bien justement, je vais participer à ce projet.
Voilà pourquoi vous nous quittez donc pas tout à fait, finalement vous ne quittez pas tout à fait les auditeurs et les enseignants.
Hein,
vous allez rester dans le domaine de la langue française. Alors c'est un projet qui ne concerne pas que le Togo, il y a d'autres pays qui sont agrégés au projet.
Oui, alors il y a le Togo bien sûr, mais il y a aussi le Ghana, le Bénin et le Nigeria. En fait, ce qui se passe, c'est que dans chacun de ces pays, il y a des centres d'enseignement de français langue étrangère, de FLE comme on dit. Et ces différents centres, dans les années 90, ont souhaité se rapprocher et travailler ensemble, notamment pour faire face à la demande croissante de français dans la sous-région.
Alors c'est vrai qu'on peut se demander à qui s'adressent les cours de français langue étrangère au Bénin et au Togo, puisque ce sont deux pays francophones.
Ben oui, alors, mais justement, les centres de Lomé et de Cotonou accueillent en grande partie des étudiants ghanéens et nigérians. Alors vous savez que le Ghana comme le Nigeria sont tous les deux des pays anglophones qui sont entourés exclusivement par des pays francophones, d'où l'importance d'apprendre le français dans ces deux pays. Et en plus, au cours de leurs études, les étudiants doivent valider le programme de Year Abroad. Voilà. Donc c'est un programme d'immersion.
Une année à l'étranger.
Exactement, pendant laquelle ils doivent apprendre une langue étrangère. Et c'est très souvent au Togo et au Bénin que ces étudiants viennent apprendre le français.
Et qu'est-ce que ça peut apporter à ces centres d'enseignement de français de se constituer comme ça en réseau ?
En gros, plus on est nombreux, plus on est fort.
Certes.
Donc voilà, par exemple, si ces centres se rendent compte qu'il y a une demande de plus en plus forte en français juridique, voilà, ce sont des choses qui sont arrivées dans les années qui viennent de se passer, il va falloir ouvrir des classes spécifiques pour enseigner le français juridique. Et bien, plutôt que chacun travaille dans son coin sur ces nouveaux programmes, et bien, ils vont y travailler ensemble. C'est ce que l'on appelle la mutualisation des ressources. Donc en fait, on va mettre en commun ce que chacun sait faire. C'est la même chose également du côté de la formation des enseignants. Plutôt que chacun des centres organise des stages de formation pour ses propres enseignants, et bien là, on va organiser des stages régionaux et tout le monde en profite. Et c'était d'ailleurs dans le cadre de ces stages régionaux que moi j'avais pu participer au projet en proposant des formations avec la radio pour RFI.
Et ça permet de mieux se faire connaître aussi.
Oui, c'est aussi une manière pour eux de communiquer parce qu'il y a aussi derrière ce projet la volonté de se constituer en pôle de référence. Il faut savoir que très souvent, les professeurs de français dans ces pays viennent suivre des formations en France ou dans d'autres pays francophones, mais à terme, ce pôle régional pourrait tout à fait aussi accueillir des professeurs de français d'autres pays en Afrique, par exemple. Un professeur de français au Burundi ou au Kenya pourrait venir suivre une formation au Togo plutôt que d'aller suivre une formation, d'aller suivre un stage en France. Donc, l'idée derrière, c'est également de développer davantage d'échanges sud-sud, comme on dit.
C'est moins coûteux et du coup, ça permet de former plus de professeurs.
C'est moins
de
coûteux
français.
Et puis il y a aussi le côté, c'est plus contextualisé parce qu'en Afrique, les enseignants ont aussi des spécificités, donc
des besoins,
voilà,
bien sûr,
bien particuliers. Il faut aussi en tenir compte.
Bon, merci Mathilde Landier. Vous allez beaucoup nous manquer, mais
merci,
vous allez nous donner des nouvelles, j'espère.
Oui, très régulièrement, tout à fait.
Et merci surtout pour tous les projets que vous nous avez fait découvrir autour de la langue française. Moi, j'ai appris énormément de choses sur la langue française grâce à vous. Je passe aussi un petit message aux professeurs de français. Rendez-nous la vite, la Mathilde. Allez, bon vent, Mathilde. À très bientôt à l'École
des
Savoirs.
Oui, merci.
L'École des Savoirs, ce n'est pas fini. On se retrouve après le journal pour un débat avec nos invités. Le mérite scolaire va-t-il à l'encontre de la justice sociale ? Nous parlerons de la France, mais aussi des autres pays européens et des États-Unis. Le rendez-vous, c'est dans 3 minutes maintenant.